Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Peut-on se ranger des voitures en conduisant des camions ? Peut-on se suicider simplement parce que l'on n'a pas trouvé quelque chose à la bonne place ? Si l'on est à moitié anormal, maniaque comme pas un, cinglé en un mot, et c'est le fils du pendu de Fontenay qui parle, oui, peut-être, on peut se suicider. Mais dans les romans policiers, comme dans les nouvelles policières, un assassinat est toujours plus intéressant, plus croustillant qu'un suicide. Voici Nouvelles policières, choisie et présentée par Francis Lacassin, première diffusion sur France Culture, le 22 août 1985.
Les nouvelles du crime. Texte choisi et présenté par Francis Lacassin.
De tous les auteurs de romans policiers français, Léo Mallet est sans doute celui dont le profil s'apparente le plus à celui de ses confrères américains de la grande époque, les Goodies, les Hammett, les McCoy. Né en 1909 à Montpellier, orphelin à l'âge de 3 ans, réduit à se débrouiller lui-même, à se faire lui-même, Mallet n'a même pas 17 ans lorsqu'il arrive à Paris en 1926, Paris où il est aussitôt accueilli dans les milieux anarchistes. Chansonnier à Montmartre, à l'âge de 16 ans et demi, manœuvre en usine, incarcéré pour vagabondage, ouvrier chez Berlier à Vénissieux et chez un fabricant de motos à Mâcon, laveur de bouteilles chez Félix Potin à Montrouge, nègre d'un maître chanteur en alphabète, téléphoniste, crieur de journaux, incarcéré pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, poète ami d'André Breton, membre du groupe surréaliste dont il signe tous les manifestes, et prisonnier de guerre en 1940 enfin. Libéré en 1941, il débute par hasard et pour des raisons purement alimentaires dans la littérature policière, en écrivant de faux romans américains signés de pseudonymes également américains. Le succès de ses pastiches ou de ses postiches l'amène à prendre au sérieux la carrière d'auteur de romans policiers. Et c'est ainsi qu'il en vient à imaginer un détective qui évoluerait dans un milieu crédible, un environnement français, et un personnage donc qui bénéficierait de l'expérience de la vie que son créateur a acquise au prix de beaucoup de difficultés. C'est ainsi qu'en 1943 apparaît pour la première fois dans 120 rues de la gare le fameux Nestor Burma, et qui se définit comme le détective de choc, comme l'homme qui met le mystère KO. Directeur et unique employé de l'agence Fiat Lux, le détective de choc accomplira ses meilleures performances de 1954 à 1959 dans la série des Nouveaux Mystères de Paris. Un crime par arrondissement, un crime exécuté toujours avec le concours d'une poésie âpre et d'un humour noir et mélancolique que sécrète le décor. Par son sens de la répartie, par son approche des êtres et de leur décor, par sa sensibilité qui n'est jamais de la sensiblerie, il est évident que Nestor Burma doit beaucoup à la personnalité de son créateur, beaucoup à son passé anarchiste et surréaliste. Avec ses adversaires, Nestor Burma ne manque jamais d'encaisser de mauvais coups. Le mystère, en effet, se venge de lui en le faisant mettre KO par tous les malfrats qu'il traque. Quant à encaisser de l'argent, c'est pour Nestor Burma beaucoup moins facile, car le détective de choc entretient souvent avec ses clients des rapports tendus ou philanthropiques, par exemple dans Entreprise de transport.
C'était une rue tranquille et des plus champêtres. Le pavillon de style normand se dressait à une distance suffisante de ses voisins, d'aspect moins cossu, pour démontrer que les serviettes ne se mêlaient pas aux torchons. Il y avait un parc derrière, une pelouse devant et un garage exigu sur le côté. Fixé à un des piliers en ciment de la grille d'entrée, deux plaques de formats différents étincelaient au clair soleil matinal. La plus grande, en cuivre, portait gravé le nom d'André Pellerin. L'autre, émaillée, placée juste au-dessous, mentionnait « chien méchant », sans que le rapport fût précisé. En fait, il n'y avait pas de chien, méchant ou non. Et la plaque n'était là que parce que cela fait partie obligatoire du décor habituel des villas banlieusardes. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir des manies. Je dis cela parce que le bonhomme avec lequel j'avais rendez-vous, directeur d'une entreprise de transport, était, si j'en croyais mon ami Marc Covet, un maniaque de la plus belle eau. La veille, lorsque ce client en puissance m'avait téléphoné pour me demander de passer le voir à son domicile particulier, le journaliste éponge était dans mon bureau et il avait dit, la communication terminée, « André Pellerin, entreprise de transport ?» Si c'est celui que je connais, je vous souhaite bien du plaisir. Celui qui a failli m'écraser l'année dernière, si vous vous souvenez de mon accident. C'est marrant, mais à la suite de cette rencontre brutale, nous avons sympathisé. Oh, pas longtemps. Car le gars est affligé de travers qui rendent rapidement insupportable tout commerce avec lui. C'est le genre de citoyen qui tomberait malade s'il plaçait un jour sa boîte de suédoise dans la boîte réservée aux cigarettes et vice-versa. Bref, tatillon et maniaque, comme il n'est pas chrétiennement permis, ce pèlerin, au dire du rédacteur du Crépuscule, ne me faciliterait pas la tâche qu'il me confierait et me mettrait plutôt, paradoxalement, des bâtons dans les roues. D'après ma montre, j'étais légèrement en avance au rendez-vous. Je décidai d'attendre un peu avant de m'annoncer. Je bourrai une pipe et j'attendis en lisant mon journal et fumant le dos contre le pilier. Ce fut dans cette nonchalante attitude que la boniche de pèlerin me surprit. C'était une femme entre deux âges, dont le sex-appeal égalait celui du cabas plié qu'elle serrait sous son bras. « Mon nom est Nestor Burma. J'ai rendez-vous avec Monsieur Pellerin. » Et voyant les volets fermés, je ne me suis pas permis de sonner. « Mais peut-être maintenant pourriez-vous avertir Monsieur Pellerin que je suis là. » Elle leva les yeux en direction des fenêtres et son visage ingrat exprima la surprise.
Bah, « Ça alors, c'est pas possible. Il y a quelque chose de détraqué, ma montre ou je ne sais quoi. À cette heure-ci, il y a longtemps que monsieur est élevé d'habitude. Avec lui, tout est réglé comme du papier à musique. Ah bah ça alors. »
Et sans plus se soucier de moi, elle se dirigea vivement vers le pavillon qui l'engloutit. Je l'y suivis. Le vestibule désert était meublé d'un vestiaire rococo sur la tablette duquel reposait un agenda, que j'ouvris, bien entendu. Chaque jour, minutieusement et avec pas mal de ridicule, le maniaque André Pellerin dictait à la femme de charge, par le truchement de ce livre, au début duquel son nom, Madame Chevalier, figurait, la moindre des occupations ancillaires auxquelles il désirait la voir se livrer. La page portant la date du jour où nous étions restait blanche. Je me demandais si la domestique saurait, faute d'instruction, manier convenablement l'aspirateur lorsque je l'entendis redescendre de l'étage.
Alors c'est formidable. Je viens de sa chambre, monsieur n'est pas là. Il a découché.
Il faut un commencement à tout, mais il aurait pu ne pas choisir le jour où il me fait venir de Paris.
C'est vrai, vous aviez rendez-vous. C'est encore plus bizarre. Vous ne trouvez pas?
Je ne sais pas. Je peux attendre? Elle acquiesça machinalement du chef et, songeuse, me précéda dans un salon dont elle ouvrit largement les portes-fenêtres. La pièce, aux meubles symétriquement disposés, donnait sur le parc. Je restais seul avec ma pipe 5 minutes, guère plus. Au bout de ce laps de temps, Mme Chevalier était de retour.
Je viens du garage. La voiture est là.
Je hochai la tête sans me compromettre. Elle repartit en traînant les pieds. Je rallumai ma pipe qui était éteinte et me perdis dans la contemplation du parc. Je vis la bonne femme le traverser, se diriger sans hâte, un râteau à la main, vers une sorte de pigeonnier bâti dans le fond. Tout à fait une âme en peine. L'absence d'instruction, comme je l'avais supputé, se faisait cruellement sentir. Elle ouvrit la porte du pigeonnier, la franchit, en ressortit aussi sec en gueulant comme une baleine. Je me précipitais, j'arrivais trop tard pour la recueillir dans mes bras. Je n'y tenais pas, d'ailleurs.
Là.
Je pénétrai dans le pigeonnier clairement désigné. Il servait de débarras depuis longtemps. Des chaises pliantes s'empilaient dans un angle et des outils de jardinage dans un autre. Au milieu de tout cela, un homme se balançait doucement. Toutefois, en dépit de la proximité de Robinson, nous étions loin des joies de l'escarpolette. Je ranimai la boniche sans trop de difficultés et l'aidai à réintégrer la maison. Je ne lui posais qu'une question. Était-ce son patron qui séchait dans le pigeonnier désaffecté? Elle me répondit par l'affirmative. Je la laissai devant un vulnéraire et, par routine, montai voir dans la chambre du défunt s'il n'y avait rien à glaner. Le lit, non défait, ne montrait pas un pli suspect. Et, à propos de pli, aucun message, ni sur l'oreiller ou ailleurs. Sans raison précise, je regardais dans la penderie attenante. Elle contenait des vêtements et des chaussures rangés dans un ordre parfait. Le contraire eût été étonnant, mais rien d'autre. Je redescendis à la recherche d'un téléphone. Il y en avait un dans un petit bureau. Je composais le numéro de la PJ et j'eus la chance de trouver mon vieil ami, le commissaire Florimon Farou, au bout du fil. Ici Nestor Burma. Je vous appelle de Fontenay.
Oh, de quel commissariat, ami?
Mais Sceaux, pourquoi?
Mais pour savoir si vous y connaissez quelqu'un. J'ai eu un cadavre au petit déjeuner. Ce sont des annonces toujours délicates à faire à des flics auxquels on n'a pas été présenté.
Un cadavre? Tiens, tiens, il y avait longtemps.
Oui, et je me croyais abandonné des dieux, mais tout paraît vouloir rentrer dans l'ordre.
Bien sûr. Couteau, revolver?
Corde.
Vénard. Cette conversation à la graisse se poursuivit pendant 5 bonnes minutes, au bout duquel Farou m'engagea à alerter son collègue de Sceaux, un nommé Édouard Pascot, qu'il connaissait un peu. Avant de suivre le conseil et prévoyant que je serais sans doute retenu par cette histoire plus que je ne le pensais, je téléphonais à Hélène Châtelain, ma secrétaire, pour m'assurer que rien d'urgent ne réclamait ma présence à l'agence.
Et le service des abonnés absents signale pour cette nuit un appel émanant d'André Pellerin.
Maman, à quelle heure?
Minuit. Il s'est simplement nommé, il n'a pas laissé de longs messages et n'a pas dit s'il rappellerait.
Il ne rappellera plus. Je raccrochais, sans davantage éluder la corvée, informais le commissaire Pascot du boulot qu'il attendait rue Charles Laguet. Ne bougez pas, me recommanda cet honorable, du moins je le suppose, magistrat. Je ne suivis pas la consigne à la lettre. Je me déplaçais suffisamment pour aller jusqu'à la grille guetter l'arrivée de la loi. Elle rappliqua bientôt sous forme d'un quart de police et d'une ambulance dans un inutile mais spectaculaire vacarme d'appareils avertisseurs. 5 types descendirent du car, les premiers en une sorte de vol plané, 3 flics en tenue et 2 citoyens vêtus comme tout le monde. L'un des civils était un toubib raflé en chemin, l'autre élégant, l'air prétence, aggravé par une moustache de danseur mondain, était un de ces bourdes à présent qui sont allés à l'école pour lesquels seuls existent les faits dûment vérifiés. Il ne m'était pas particulièrement sympathique, mais je m'avançais, la main tendue tout de même. Encore qu'il parut bien genoux, je m'enquis. Commissaire Pascot?
Inspecteur Le Petit, c'est vous qui avez téléphoné?
C'est moi.
Connaissance du commissaire Farou?
Un ami.
Et que vient faire le commissaire Farou là-dedans?
Rien. Mais en ma qualité de détective privé, je n'ai pas jugé négligeable d'avoir une caution.
Ah oui, oui, vous êtes un privé. Nestor Burma, si j'ai bien compris. Que faisiez-vous ici?
Monsieur Pellerin m'avait donné rendez-vous. J'ignore pourquoi.
Un client?
Plus maintenant, en tout cas.
Rendez-vous comment?
Par téléphone.
Quand?
Hier après-midi.
L'heure?
Disons 16.
Bon.
Le genre concis. Tout ce qu'il y avait de plus concis. J'ajoutais, il a tenté de me joindre dans la nuit, toujours par téléphone.
Et pourquoi donc?
Je n'en sais rien. C'est le service des abonnés absents qui a noté l'appel.
Parfait. Où est-il? Suivez-moi.
Devant le macabé, comme il comprenait vite, un simple regard lui suffit pour tirer des conclusions.
Pendu, cet homme-là est pendu.
Ben, on ne pouvait rien lui cacher. et la formation scientifique avait du bon. Sur ce, ils se mirent tous à l'ouvrage. On détacha André Pellerin et on l'étendit sur une civière apportée entre-temps par le chauffeur de l'ambulance. Contrairement au duc de Guise, allongé, il paraissait plus petit que suspendu. C'était un individu de taille moyenne, grisonnant, 50 ans environ, et devant accuser sous la bascule, après immersion, 60 kilos en chiffres ronds. Il était mort depuis longtemps, et si je ne l'avais pas vu osciller au bout de sa corde, c'était tout simplement que la mère Chevalier, en avançant à l'intérieur de l'ancien pigeonnier, avait sûrement heurté ses pieds chaussés de fins souliers, dont les lacets croisés symbolisaient assez bien l'X de ce suicide que rien ne laissait prévoir. Et il ressortait clair, comme le jour, de tous les faits et indices matériels que, la nuit précédente, André Pellerin, après avoir rangé sa voiture au garage, s'était dirigé vers l'ancien pigeonnier et s'y était pendu. Le choix de cet endroit s'expliquait mal, mais c'était sans importance. À la rigueur, on pouvait imaginer que l'exiguïté du garage ne se prêtait pas au genre de sport aérien envisagé. Le corps ne portait aucune trace de violence, pouvant laisser supposer qu'avant, on avait tué le bonhomme d'une manière ou d'une autre avant de le pendre, et c'était là l'essentiel. Sur un escabeau, les empreintes de souliers du mort apparaissaient très nettement, plus particulièrement l'empreinte de la semelle droite, encore grasse d'une huile récoltée dans le garage et qui avait résisté à la traversée du parc. Tout de même, quelque chose clochait dans tout cela. Par exemple, je me demandais comment il se faisait qu'un maniaque de l'espèce d'André Pellerin n'ait pas laissé un message quelconque de tradition chez les désespérés. Ensuite, j'avais beau me souvenir de Pierre Fabrègues qui, jadis, m'avait infligé le voyage Paris-Cannes à seule fin de m'offrir le spectacle de sa mort volontaire, ce ne sont pas des choses qui se renouvellent. Or, il n'y avait pas à sortir de là. Pellerin, la veille, semblait avoir besoin des services d'un détective privé. J'en fis la remarque.
Oui, bien sûr, mais les faits sont les faits. Et qu'est-ce qui me prouve que vous ne me racontez pas des blagues? Les détectives privés, vous savez...
Oui, je savais. Mais je rétorquais que les faits étant bien les faits, précisément, une vérification restait possible. D'après l'heure de sa communication, Pellerin ne pouvait m'avoir appelé que de son bureau. Sans répondre, le policier fila vers le téléphone, je le suivis. Et peut-être parce qu'il se sentait sûr de son fait, encore, hein, il me laissa à la disposition du second écouteur.
Allô? Les transports Pellerin et compagnie?
Oui.
La standardiste?
Oui, monsieur.
Ici, police, inspecteur Le Petit. J'ai besoin d'un renseignement.
Inspecteur de police? Oh, bien, monsieur.
Et hier, vers 16h, votre patron vous a-t-il fait demander 538-2709?
Je vais voir, monsieur. Je l'ai sans doute noté. Je vais voir, oui, monsieur.
Bon, autre chose, je vois que votre réseau social est Pellerin et compagnie. L'associé, c'est le fils ou y a-t-il un autre associé?
Il faudrait peut-être mieux que je vous passe monsieur Godard.
C'est quoi ce monsieur Godard?
L'associé, justement.
Elle le passa et le petit n'y alla pas par quatre chemins.
Ici, inspecteur Le Petit de la subdivision de Sceaux. Je vous téléphone de chez monsieur André Pellerin. Il est mort. Et j'aurais besoin de votre présence ici, ainsi que de la présence de son fils, si vous pouviez le joindre. Merci. Voilà. Oui, vous avez téléphoné, et plutôt deux fois qu'une, Pellerin. Rappelez-vous son appel de cette nuit, vraisemblablement d'ici, juste avant de se pendre.
Son sourire s'accentua, chargé d'un incontestable mépris.
Vous jouissez d'une certaine réputation, n'est-ce pas?
Merci.
Je me demande si elle n'est pas usurpée. Vous n'avez pas encore compris la raison de son second coup de téléphone. Pour vous décommander, parbleu.
C'est bien possible.
C'est pas ce que je pense. Il y a une femme là-dessous. Il voulait vous la faire surveiller. C'est bien le plus clair du boulot d'un privé, non?
Ben voyons.
Seulement ensuite... Autre chose de plus d'importance l'a poussé à se suicider et il a essayé de vous joindre pour que vous ne glissiez pas votre nez dans ses affaires. Votre numéro personnel est-il dans l'annuaire?
Oh non, le bureau seulement.
Alors ça me paraît clair.
Restent les raisons du suicide.
Ne vous occupez pas de cela. Ses familiers nous les fourniront.
je l'ai déjà dit, ces familiers ne nous fournirent rien du tout. Ils arrivèrent au nombre de trois à bord d'une voiture qui se rangeait immédiatement derrière l'ambulance. La paisible rue Charles Laguet prit tout de suite l'aspect encombré d'un parc automobile, mais sans que cela nuisît à son calme. Feu André Pellerin avait dû engendrer son fils un jour de mégalomanie où il se prenait pour Primo Carnera. Lucien Pellerin, en effet, était un costaud de 25 ans planté sur d'imposants pieds plats avec des battoirs en guise de main. Mais ce n'était peut-être qu'un Hercule apparent. La caractéristique bobine plombée de ceux qui ne dorment jamais leur sou surmontait ses larges épaules. Toutefois, comme il conduisait un des camions de l'entreprise paternelle, il devait souvent passer des nuits au volant, d'où son teint de papier mâché et ses paupières rougies. Mon nom, lorsqu'il fut prononcé, n'eut pas l'air de le frapper beaucoup. Mais ma qualité de détective privé lui fit froncer les sourcils. Robert Godard, l'associé, démentait par ses manières empressées et cordiales ce qu'avaient de sévère ses vêtements de notaire départemental, au demeurant peu en rapport avec l'âge qu'il paraissait. Ce petit bonhomme du gabarit du mort, quoique un peu plus trapu, me tendit une main rugueuse qui me laissa supposer que tout le monde, cadres ou non, chez Pellerin et compagnie, aidait plus ou moins à la manutention des marchandises. La sœur du défunt, tante Annie, que les deux autres avaient emmenée avec eux sans doute pour lui jouer une sale blague, représentait du haut de ses binocles le type même de la vieille fille collée montée. Je la sentis susceptible de rendre, sur le chapitre des manies, des points à son frère, en tout cas de prendre brillamment sa succession. L'inspecteur Le Petit, avec une brusquerie tactique, leur expliqua dans ses moindres détails, n'oubliant pas de mentionner que le mort m'avait convoqué, on ignorait pourquoi. Eux le savaient-ils? Ils répondirent non et furent incapables de trouver une raison plausible à l'acte de désespoir de leurs parents et amis.
Pellerin,
hasarda timidement Godard en bafouillant dur.
Pellerin n'avait pas d'ennemis, du moins à ma connaissance, mais évidemment, on ne peut pas tout savoir. Et je... Enfin, je veux dire, n'auriez-vous pas envisagé, inspecteur, si nous rejetons le suicide?
Le suicide ne fait aucun doute. L'enquête, si on la pousse, le confirmera.
Les indices étaient nombreux qui militaient en faveur de l'hypothèse du suicide. Il y en avait qu'une, tout petit, insignifiant, exigeant presque l'emploi d'une loupe pour forcer sa modestie de violette qui pût laisser soupçonner un crime et qui, véritablement, le prouvait. Mais ce détail, négligé par Le Petit, je le gardais pour moi. Pour suppléer au manque à gagner que constituait la mort inattendue de Pellerin, rien ne s'opposait à ce que je fisse mes offres de service aux parents de ce dernier. Ma première visite fut pour tante Annie qui paraissait, de tous et de loin, la plus offusquée par les conclusions de Le Petit. Elle n'admettait pas le suicide, soit, mais l'assassinat. Et qu'envisager d'autre? N'était pas non plus une éventualité agréable et elle préférait laisser tout en l'état sans susciter d'autres scandales. Bref, elle ne me flanqua pas à la porte, mais presque. Je filai au domicile du fils sans espoir de le trouver au gîte. Il devait avoir repris son travail à l'entreprise, mais par curiosité pour la maison où il demeurait. Je m'étais étonné in petto qu'il n'habita point à Fontenay, le pavillon étant assez vaste pour abriter de nombreuses personnes sans gêne pour quiconque. Il y avait fichtrement loin de la luxueuse villa paternelle à l'espèce de taudis où vivait le fils. Contrairement à mon attente, il était chez lui. Et pas seul. Une souillon, que j'appris être sa femme, vint m'ouvrir la porte du moche appartement. Elle parut surprise et, après m'avoir introduit auprès de son mari, lequel cachait sa main droite sous un volumineux pansement, alla s'occuper d'un moutard qui pleurait dans une pièce voisine.
Que voulez-vous encore?
Ce suicide ne me plaît pas. Vous savez que votre père m'avait prié de passer le voir et c'est à cette occasion que j'ai découvert le drame. Il voulait certainement me confier une mission. J'ignore laquelle, mais...
Mais ça va, je le sais, moi.
Ah bon ?
Ça ne lui a jamais plu que j'épouse Marthe. Et il voulait vous envoyer fouiner dans notre vie privée. Je comprends très bien que vous soyez emmerdé par la perte d'un client. Surtout que vous n'avez pas eu le temps de lui soutirer une provision. Mais comptez pas sur moi pour vous défrayer. Depuis quelques jours, je n'arrête pas de payer des notes. Mais celle-là, ma cache.
Mais vous ne me devez rien ?
Heureusement ! Et si le vieux vous avait dû quelque chose, ça aurait été pareil. Maintenant, vous pouvez vous tirer.
Volontiers. J'étais venu avec une proposition, mais autant laisser tomber.
Quelle proposition ?
À ce moment, on sonnait à la porte. La femme alla ouvrir.
Bonjour, Mme Pellerin. Le patron m'envoie parce qu'il a appris que vous aviez réglé Mme Plantier.
Viens chercher ton pèse !
Escorté de la femme, le jeune homme déluré s'approcha.
Je lui dois combien à ton singe ? Il est pressé, hein ?
Ah, vous savez, tenez ce papier. Moi, je m'en fous de ces trucs-là, hein ? Je fais ce qu'on me dit de faire. Quant à être pressé, c'est pas un reproche à faire au patron. Il y a plus de 6 mois que vous lui devez ce fric.
Ça va !
Sur un signe de son mari, la femme produisit une grande enveloppe remplie de billets de banque et se mit en devoir d'en donner quelques-uns au gamin.
Si, madame. À la prochaine.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que ça peut vous foutre ?
Oh, là, moi, rien. Alors, au revoir, monsieur Pellerin.
Un moment. Vous me parliez d'une proposition.
Ça ne tient plus. Vous ne semblez pas en disposition de l'accepter.
Dites toujours.
Comme vous voulez. Ce suicide ne me plaît pas. Je vous répète. Enfin, je m'excuse, mais si votre père avait été assassiné, je pourrais...
Mener une enquête dans ce sens et me soutirer un peu de fric.
Voyons, toute peine mérite salaire.
Eh bien, gardez votre peine et moi je garderai mon fric. Écoutez, Brahma...
Burma, s'il vous plaît.
Écoutez, Burma, vous me faites rigoler. Mon père était à moitié anormal, maniaque comme pas un, quand j'ai commencé à conduire un camion à la boîte. Je logeais à Fontenay, mais comme mon travail m'obligeait à rentrer à des heures irrégulières, il n'a pas pu le supporter, je suis allé habiter à l'hôtel. Vous vous rendez compte ? Cinglé, je vous dis. Après tout, il s'est peut-être suicidé parce qu'il n'a plus trouvé tel ou tel objet à sa place habituelle. C'est encore possible. Mais assassiné ? Non, non, laissez-moi rire. Trouvez autre chose pour gagner votre avoine, mon vieux.
Je n'eus pas besoin de me lever pour prendre congé, étant resté debout tout le temps. Je portais un doigt au bord de mon galure.
Salut, monsieur, dame.
Salut. Dites donc.
Oui ?
Vous ne vous inquiétez pas de savoir où je me suis fait ça ?
Vous vous êtes foulé le poignet en manipulant ce tas de fric ? Manque d'habitude.
Vous n'y êtes pas tout à fait. Le garçon de recette que j'ai assommé pour lui barboter sa sacoche avait simplement la tête dure. Et maintenant, trouvez quelqu'un qui vous embauche pour travailler là-dessus. Ça vous fera un peu d'argent de poche.
C'était Nouvelles policières, choisie et présentée par Francis Lacassin. Aujourd'hui, entreprise de transport de Léo Mallet. Vous pourrez suivre demain à 14h la seconde partie de cette nouvelle du crime de Léo Mallet, entreprise de transport.
Si 24 heures d'attente, de suspense, était nécessaire au mois d'août 1985, cette attente nous sera épargnée cette nuit et nous verrons si un peu de fric, un peu d'avoine, tombera du ciel sur Nestor Burma. Voici donc, tout de suite, la fin de cette nouvelle avec en prime un petit résumé qui n'est pas sans utilité.
Les nouvelles du crime. Texte choisi par Francis Lacassin. Aujourd'hui, entreprise de transport. Seconde partie. Nestor Burma, l'homme qui met le mystère KO, n'a pas de chance. Nous avons vu dans la première partie de cette histoire qu'il avait trouvé un client, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. Malheureusement, son client André Pellerin, transporteur, s'est pendu dans la nuit qui précède son rendez-vous avec le détective de choc. Au contraire de la police et de l'associé du défunt, Nestor Burma est convaincu qu'il s'agit d'un crime maquillé en suicide. Il tente de convaincre la sœur du disparu de lui confier l'enquête. Mais l'idée d'un crime intrigue la vieille demoiselle encore plus que celle du suicide. Burma n'a pas plus de succès avec le fils de pèlerin. « Ne comptez pas sur moi pour vous aider à trouver votre avoine », lui dit aimablement le jeune homme. Cependant, il paraît rouler sur l'or, bien que la veille de la mort de son père, il était couvert de dettes. Burma trouve suspecte cette nouvelle fortune, très suspecte aussi la blessure que le fils pèlerin porte à la main droite.
Une fois dehors, je récapitulais. Tantani, zéro. Le fils, idem. Restait l'associé. Je m'en fus essayer de lui vendre ma salade. Lui non plus n'était pas seul. Dans le bureau directorial des transports pèlerins et compagnie qu'il partageait naguère avec le pendu de Fontenay, un homme achevait de discuter le coup avec lui lorsque je m'annonçais. L'inspecteur Le Petit, toujours élégant, toujours sûr de lui, toujours en possession de sa moustache, et toujours, non, un peu mieux disposé à l'égard de Nestor Burma, semblait-il. Indulgent, pour ainsi dire.
Tiens, voilà l'homme qui mêle le mystère chaos. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez pourtant bien recommandé de ne pas vous occuper de ça, mais c'était vraisemblablement trop exigé d'un détective privé, hein? Avez-vous découvert que Pèlerin a été assassiné à coups de hache?
Monsieur Godard salua cette plaisanterie d'un rire discret, chèvre chouiste, flatteur pour le flic sans être blessant pour moi. Pas encore. Je souris à mon tour décocher une flèche à Le Petit. N'empêche que le mobile de ce suicide reste obscur.
Vous croyez ça? Il y a du nouveau, monsieur Nestor Burma. Monsieur Godard nous a appris...
Inspecteur, est-ce nécessaire?
Mais absolument, si vous connaissiez cette engeance, vous sauriez qu'il est préférable de ne pas faire de mystère avec elle, surtout quand on peut lui faire toucher du doigt son erreur. Sans quoi ça n'en finit plus, on en l'a tout le temps dans les jambes.
Comme vous voudrez, mais c'est déjà assez pénible.
Alors, vous le tenez, ce mobile?
Oui. Autant qu'on puisse tenir un trou. Celui qui existe dans les finances de cette maison et que M. Godard a constaté hier, un trou pratiqué par Pèlerin. Certes, l'affaire lui appartenait, mais il s'est permis de puiser dans le tas sans avertir personne et cette entreprise est à la veille de la faillite.
La faillite, peut-être pas. Mais enfin, il y a eu quelques prélèvements. Enfin, pas mal de prélèvements.
Vous voyez que j'avais raison de m'en tenir au fait et de ne pas chercher midi à 14h. Hein, Burma?
Et pourquoi avait-il besoin de tout ce pognon? Pour satisfaire une manie?
Tout juste, vous connaissez Lola Garrigue?
Non.
Vous avez dû voir son portrait sur les couvertures de certains magazines. Je ne vous ai pas dit l'autre jour qu'il devait y avoir une femme là-dessous?
Et c'est cette Lola?
En chair, oui. En chair. Il l'entretenait. Vous comprenez maintenant?
Je ne suis qu'un modeste détective privé. Je mets le mystère chaos, mais à partir d'un certain degré de difficulté seulement. Quand c'est trop simple, je nage.
Vous voyez comme ils sont. Aïe. Il devait estimer qu'il était très joli que Le Petit manifesta de la joie d'avoir enfin trouvé au mystérieux suicide un mobile justifiant ses conclusions et par la même occasion celle du millien détective privé, mais que tout cela ne comblerait pas le trou creusé dans le capital. Toujours à faire les singes, mais vos grimaces ne changeront rien au fait. Sur Pèlerin, malgré son argent, ne pouvant espérer jouir de l'exclusivité des sentiments de la Lola en question. Elle a même dû lui donner ces derniers temps des sujets d'inquiétude. Il a alors songé à la faire surveiller par vous. Mais dans la nuit même, considérant que la ruine de la maison était de par sa faute inéluctable, il a envoyé tout balader, a essayé de vous décommander, et s'est pendu. Mais oui, je sais... Ruine de la maison, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin, il avait détourné des sommes appartenant à la société et il aurait été obligé de fournir des explications. Ça aurait pu s'arranger en famille, très certainement, mais il a perdu la tête. Les suicidés sont des gens bizarres.
C'est fort bien dit. et ça tenait. Mieux que par un fil. Et s'il n'y avait pas eu, quelque part, quelque chose qui ressemblait à un lit, justement, j'aurais été convaincu, comme semblait l'être Godard, à qui il ne fallait plus songer demander maintenant de mener une enquête dans l'autre sens. Le soir même, j'eus l'occasion de voir Farou.
Alors, il paraît que ce mort de l'autre jour a été pour vous l'occasion de croiser le fer avec l'inspecteur Le Petit.
Je crois qu'il se trompe complètement dans cette affaire. Ce n'est pas sa faute. Il manque de subtilité et d'imagination.
Et vous, vous en avez à revendre, hein? Vous êtes fortiche, mais il ne faut pas exagérer. Comme vous étiez dans la course, je me suis débrouillé pour consulter le dossier.
Tiens donc.
Le Petit est ce qu'il est, et libre à vous de ne pas l'aimer. Vous n'êtes d'ailleurs pas le seul, mais ces constatations n'offrent aucune bavure. Et si dans les premières heures de l'enquête, le mobile manquait, ça n'est pas le cas maintenant. Mais ça ne vous satisfaisait pas, bien sûr. Vous pensez peut-être que le type a été assassiné.
Quelque chose comme ça.
Par un assassin bougrement fortiche, alors. Vous et lui feriez une belle paire, hein?
Pas tellement fortiche. Il a oublié un détail. Et Le Petit l'a négligé.
Un détail? Et quel détail?
Je le lui dis.
Et oh, par exemple. Vous aussi, vous avez vos manies, je vous le dis, hein?
Justement. Vous reconnaissez par cette remarque qu'on ne s'en débarrasse pas facilement.
Et le petit, il faut tout de même pas le prendre pour un imbécile, hein. La fortune subite du fils pèlerin lui est venue aux oreilles et il s'est rencardé là-dessus. Il est prouvé qu'il a récemment décroché un lot important à la loterie nationale.
Bien non, la loterie a du bon. Moi, je n'y ai jamais rien gagné. Un peu de fric devait quand même me tomber du ciel le surlendemain. Lucien Pellerin me téléphona, aimable comme tout, s'excusant de sa précédente attitude discourtoise et me priant de passer le voir d'urgence, lui et Tantanie au domicile de cette dernière. Je les trouvais tous deux en bonne santé, tante et neveu, lorsque je me présentais chez la vieille fille. En bonne santé, à part la main amochée du jeune homme, toujours sous son pansement. Que s'est-il passé pour que vous ayez recours à mes services, demandai-je, décidé à brusquer les choses à cause d'un thé délavé qu'on versait dans les tasses. Tantani me poussa des paperasses sous le nez. Je reconnus des polices d'assurance sur la vie. Ah ah, impossible de toucher en cas de suicide, n'est-ce pas?
Ne nous faites pas plus rapiers et sans cœur que nous sommes. Pour nous, le suicide est aussi inexplicable que le meurtre, et s'il était prouvé...
Officiellement, il l'est.
Alors? Vous nous avez bluffé l'autre jour.
Non, il y avait un indice luttant seul contre les faits. Un faible indice, détruit depuis très certainement. S'il y a un criminel, ne vous attendez pas à ce que je le démasque ce soir. Il est habile.
Démasquez-le quand vous pourrez. Il me semble que si papa a contracté ses assurances, il n'aurait pas voulu nous en faire perdre le bénéfice en se suicidant. Moi encore, j'étais en froid avec lui. Mais Tantanie, je sais bien qu'au moment de se pendre, on ne réfléchit peut-être pas à tout ça. Mais enfin... S'il existe une possibilité de plaider le meurtre, et par conséquent de nous faire payer cette prime d'assurance, je... Il n'y a plus grand chose à attendre de la boîte qui est en déconfiture, paraît-il. Ce sont désormais nos seules ressources, vous comprenez?
Et la loterie nationale?
Ah, vous vous êtes renseigné. 500 000 francs, c'est pas le PRO.
Mais c'est bien la loterie nationale, n'est-ce pas? Vous m'aviez parlé d'un garçon de recette.
N'y pensez plus. C'est Silvio, un chauffeur de la boîte qui m'a fait ça.
Ah bon?
Le jour même de la découverte de la mort de papa. Il a reculé au lieu d'avancer, m'a coincé la main contre le mur. Pour un peu, il aurait fallu m'amputer. Si c'est avec des recrues de genre que Godard espère remonter la maison...
Non, si je comprends bien, c'était plutôt un jour néfaste pour la famille Pellerin, ce jour-là.
Ouais. Et heureusement que j'avais de quoi me soigner tout le temps nécessaire. Parce que vous savez, c'est bien à la loterie que je dois ma présentaisance. Je l'avais caché, mais je me suis fait délivrer une sorte de certificat par le bureau de tabac qui m'a vendu le billet. Ça se pratique couramment.
À propos de billets, à quel nombre puis-je espérer mes honoraires?
Vous acceptez de...
Versez-moi 50 000 balles à titre de provision. « Il y a au transport pèlerin un chauffeur nommé Silvio sur lequel je voudrais avoir le plus de tuyaux possible, dis-je un peu plus tard à Reboul, mon auxiliaire. C'est peut-être un simple maladroit, peut-être autre chose. Je racontais l'accident qu'il avait provoqué. S'il a voulu tuer le fils, ça ouvrirait des horizons. J'infère des propos de pèlerin qu'il est récent dans la boîte. Reboul partit se documenter sur Silvio, lequel devait être un gars mal rasé. Je m'en fus, sous le premier prétexte venu, rendre visite à Lola Garrigue, qui était bien plus agréable que le Silvio en question. Le petit avait raison. Je reconnus sa frimousse aguichante pour l'avoir déjà vue en première page de « Dentelle et bas noirs ». Quoique ce ne soit généralement pas au visage que l'on donne la vedette dans ses publications. Je lui tins la jambe, façon de parler, une bonne demi-heure et la quittai convaincue que si elle avait les dents longues, peut-être à cause du dentifrice dont elle avait une fois proclamé les vertus, elle n'était pour rien dans la mort de son bienfaiteur. Je me mis ensuite en devoir de m'assurer que le gagnant de la loterie nationale ne m'avait pas mené en bateau. J'acquis de ce côté tous les apaisements désirables. Là-dessus, je téléphonais à Faro pour l'informer des investigations auxquelles je me livrais. Question de correction. Sans m'encourager, il ne m'engueula pas. Également question de correction, sans doute. Je rentrai au bureau, réfléchir entre un paquet de tabac et quelque chose pour la gorge. Je mis sur pied, on verra que c'est le mot, une théorie qui tenait, mais difficile à prouver. Tard dans la soirée, Reboul me fit son rapport. Il avait été servi par la chance et ramenait une ample moisson de tuyaux.
Dites, apparemment, vous avez encore eu la main heureuse, là.
Tentative de meurtre, l'accident, hein?
Non, il a été stupide et inattendu, comme tous les accidents, mais à aucun moment la vie de notre client n'a été en danger. Hein. Seulement, ce Silvio est un drôle de corps, hein. Une drôle de garde du corps, même. C'est ce qu'il était plus ou moins avant de se ranger des voitures en conduisant des camions. Car vous aviez raison, il était là depuis peu.
Garde du corps de qui?
De Salvetti. Salvetti, un autre corse de Montmartre, soupçonné récemment de se livrer au trafic d'armes. Ça vous dit quelque chose?
Non, ce n'est pas un trafic d'armes que je cherche, quoi qu'on ne sache jamais. Après tout, il y a peut-être une piste là. Surveillez ce Silvio de très près, mon vieux.
Difficile pour le moment. Il est sur la route de Tourcoing à 7 heures où il est parti livrer je ne sais quoi. Enfin, le boulot normal, quoi.
Bon, ben, à son retour, il ne faudra pas le perdre de vue. Reboul alla se coucher, je rentrai chez moi en ferrotant. Je m'endormis et me réveillai presque aussitôt. Je sautai sur le téléphone et appelai Pèlerin qui, ayant abandonné selon sa promesse son ancien quartier de Pouilleux, habitait à présent à Fontenay. Ici Nestor Burmain. Sans votre blessure à la main, auriez-vous cette semaine effectué un autre voyage à Tourcoing?
Oui, pourquoi?
Quelle cargaison?
Des pots.
Destiné à qui?
La maison de Catoir. Pourquoi?
Pour rien.
J'espère bien que non. Bon sang, vous êtes plus Sherlock que nature. Et j'ai idée que quand bien même vous ne découvrirez rien qui satisfasse vos clients, vous savez leur donner l'impression qu'ils en ont pour leur argent.
Je raccrochais sans me formaliser et composais le numéro de Marc Covet. Allô, Covet, sortez votre bagnole et venez me rejoindre. Je vous emmène à Tourcoing, où vous attendent les éléments d'un papier sensationnel, première exclusivité. À Tourcoing, le lendemain, dans la matinée, je trouvai facilement la maison des Catoirs et j'eus la satisfaction de voir stationner devant un camion portant en grosses lettres sur sa bâche « Transport, pèlerin et compagnie ». J'ai l'intuition, dit Jacobette, que ce camion, histoire d'amortir les frais de route, ne rentrera pas vide à Paris. Je veux être aux premières loges, place habituelle d'un Nestor Burmain, et je me glisserai dans un coin de ce véhicule lorsque je le sentirai sur le point de regagner l'écurie. Vous lui filerez le train en toute éventualité. Mais cela ne se passera pas avant la nuit. Toute la journée, je surveillais discrètement le camion, des fois qu'il s'envole à ma barbe, et j'eus l'occasion d'étudier le chauffeur. Sous son blouson de cuir, le fameux Silvio semblait déguisé. Une sorte de convoyeur l'accompagnait, un type aux yeux doux, secs et nerveux, à qui le costard de routier ne convenait pas davantage. Dans l'après-midi, ils allèrent charger des ballots de tissu à une manufacture, puis stationnèrent longuement aux confins de la ville avant de prendre le chemin du retour. Je dis au revoir à Covet et profitai de ce que nos deux lascars se désaltéraient à un bistrot proche pour m'insinuer sous la bâche. Peu après, la nuit vint. Une nuit qui s'annonçait noire, pas fameuse, ou trop. Ça dépendait de l'usage qu'on voulait en faire. Et le camion démarra. Je crus soudain que nous valsions dans un fossé. Le lourd camion pencha d'un côté, puis de l'autre. La nationale avait été abandonnée pour un chemin creusé d'ornières. Nous roulâmes encore pendant un bon bout de temps, puis le camion stoppa, l'arrière touchant un épais buisson. J'étais dissimulé au milieu des branches mouillées. Il pleuvait dans ce sacré bled, avant qu'un des hommes descendît de la cabine. Le paroissien resté là-haut joua des phares, les éteignant, les rallumant, et pour finir, coupant net le jus. Une voix sortant de l'ombre salua les potes et leur demanda d'avancer un peu, car c'était pas de la plume.
Oh, merde alors! Pour notre dernier voyage, on aurait pu choisir un autre temps. Salvati s'en cogne, lui!
Ça va pas!
J'entendis quelqu'un ordonner de déplacer les ballots de tissu pour fourrer l'autre camelote dessous. Ce boulot dura plus d'une heure, puis enfin, il apparut que le camion ne pouvait plus rien emmagasiner dans ses flancs. La bâche fut assujettie et un réaliste proposa de monter à la maison boire à un coup avant de se séparer. Je vis la bande se diriger vers une maison aux engageantes allures de coupe-gorge, à une fenêtre de laquelle clignotait une faible lumière comme si la pluie l'eût gênée. Je m'assurai que personne n'avait été posté en sentinelle et réintégrai ma cachette, trempée comme une soupe. Peu après, le camion reprit la route de Paris, emportant un passager clandestin, bien décidé à l'empêcher d'atteindre la capitale. J'avais établi un plan dans lequel Covet et sa bagnole jouaient un rôle, mais il semblait bien à présent que le journaliste avait dû perdre la trace du camion. Je risquais le tout lors de la traversée d'un gros bourg que j'avais vu au passage pourvu d'une gendarmerie. Je m'avançais jusqu'à la lucarne donnant sur la cabine et en fis sauter la vitre d'un coup de crosse. Un autre bruit y répondit, également un bruit de vitre brisée. Surpris, Silvio avait donné un coup de volant malheureux et venait d'emboutir une vitrine. Mais il se redressa aussitôt et, crachant les pires jurons, appuya sur le champignon. Cela ne faisait pas mon blot. Aussi profitais-je de ce que le convoyeur, jusque-là sommeillant mais que les événements avaient réveillé, se montrait inoffensif pour tirer. En état de légitime défense, pour ainsi dire. Je ne touchais pas le convoyeur, mais Silvio, dans le gras du bras. Je lâchai une rafale et quelques fenêtres s'ouvrirent. Le camion allait disparaître au tournant de la rue lorsque l'un de mes pruneaux atteignit un des pneus. Il éclata comme une bombe. Après, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Quand j'ai recommencé à y voir clair, j'étais à la gendarmerie et Silvio, son copain et même Covet me tenaient compagnie. Covet m'expliquait qu'il avait perdu la piste et que, de guerre lasse, après plusieurs demi-tours dans tous les sens, il s'apprêtait à regagner Paris en père peinard lorsque, en passant dans un bled qui semblait en révolution, il avait réfléchi que je ne devais pas être loin. Je racontai aux gendarmes de quoi ils retournaient et ils me dirent avoir effectivement trouvé des armes dans le camion. Quelques heures plus tard, Covet sur les talons et moi sur les genoux, j'entrai dans le bureau de Farou à la Tour Pointue.
« Dites, vous aviez vu juste Burma. Oh là, ventre gris, ça ne tenait qu'à un fil, hein.
C'est un lacet. Vous avez averti le petit?
Ne l'écrasez pas. Je crois que maintenant, il pourra pas constater un suicide sans arrêter toute la famille du mort.
Bon. Vous avez trouvé des indices chez notre zigoto.
La trace d'un gros piton fixé à la moulure du plafond. Le gars a été pendu par surprise, selon une méthode utilisée dans la vieille affaire Gouffet. Vous vous souvenez?
Et Tibert, le médecin à la corde. Vous trouverez cela dans le précis de médecine légale du professeur Balthazar. Bon, il avait une maîtresse, évidemment. Et qui l'a aidé?
Nous n'en savons rien, elle est en fuite.
Ah ah. Ou morte, non? Dans ce milieu, on est rapide quand il le faut.
Bah écoutez, j'espère qu'on mettra la main dessus parce que le gars ne semble pas avoir l'intention d'avouer. Nous n'avons aucune preuve tangible du crime. S'il n'avoue pas, nous ne pourrons l'inculper que de trafic d'armes. Et encore, il peut plaider la bonne foi.
Eh ben, allons toujours lui rafraîchir la mémoire. Tout le monde est là?
Même le petit.
Ah, ça, cela me fit plaisir. Mon cher Godard, voulez-vous nous raconter votre crime parfait ou dois-je m'en charger moi-même? Vous ne répondez pas. Tant mieux, j'adore discourir. Alors voilà, depuis un certain temps, vous aviez parti lié avec Salvetti, le trafiquant d'armes, dont vous transportiez la marchandise délictueuse sous le couvert d'une firme honnête. En même temps, votre maîtresse étant certainement exigeante, vous puisiez dans la caisse de la société. Pellerin s'en aperçoit. Il ne vous soupçonne pas. Il soupçonne son fils qui semble, depuis peu, ne pas regarder à la dépense. Voulant éviter un scandale, il décide de se confier à un détective privé. Il me téléphone dans votre bureau commun, ce qui vous permet d'apprendre qu'il s'apprête à faire appel à moi. Peut-être même vous le dit-il. L'intrusion d'un contribuable de mon acabit dans les affaires de la boîte est lourde de conséquences. Car il n'y a pas que le fric envolé. Il y a cette histoire de transport d'armes. Dans les heures qui suivent le coup de téléphone de Pellerin, vous avez tout le loisir de contacter Salvetti et de mijoter la suppression du vieux maniaque à laquelle vous oblige le Corse. Le soir même, sous un prétexte quelconque, celui peut-être de discuter du trou en question, vous l'attirez chez vous. Vous avez tout préparé pour le prendre par surprise. Vous le pendez, vous arrachant la peau de la main en halant la corde, particularité que je remarquais le lendemain, en vous serrant la main. Mais le corps de Pellerin, lui, et c'est l'essentiel, ne porte aucune trace de violence. C'est exactement comme si le bonhomme s'était pendu lui-même. Dans sa propre voiture, vous le transportez à sa villa. Ça, c'est risqué. Mais vous courez le risque. Avec raison d'ailleurs, car vous n'éprouvez aucun pépin en route. Arrivé à Fontenay, vous rangez l'auto dans le garage, chaussez les souliers de votre victime, vous avez la même pointure à un poil près, pour faire croire qu'elle s'est dirigée elle-même vers le pigeonnier désaffecté. C'est intentionnellement que vous marchez dans la flaque d'huile et la transportez là-bas. Autre échantillon des transports Pellerin. Vous suspendez le cadavre, lui remettez les godasses aux pieds, et allez donc. Ensuite, vous téléphonez à mon bureau. Encore un risque à courir. Si c'est Nestor Burma qui répond, vous prétexterez un faux numéro. Mais si, comme vous supposez que je puisse le faire, ne tenant pas à être dérangé dans la nuit, mais désireux de connaître dès la première heure les appels survenus pendant mon sommeil, je suis aux abonnés absents, vous laisserez le nom de Pellerin et tout le monde en conclura qu'avant de se suicider, il a voulu me décommander. Ça aussi, ça marche. L'hypothèse du suicide est en bonne voie, surtout que vous collerez la disparition du fric au compte du mort. Inutile d'ajouter que vous avez pris vos précautions relativement aux empreintes digitales. On n'en trouvera nulle part. L'esprit tranquille, vous rentrez chez vous. À pied, peut-être. C'est un détail sans importance. Bref, tout se passe selon vos prévisions. Et s'il n'y avait pas eu ces assurances sur la vie que les parents désiraient toucher, et ce voyage à Tourcoing aussi, travail de Lucien Pellerin, et qu'il était peut-être bien décidé à effectuer en dépit de son deuil, Ce n'était pas l'homme indiqué, hein? Alors Silvio, le conducteur rêvé, lui, se débrouille pour accidenter le jeune homme. Cela colle-t-il, mon cher monsieur? Il m'envoya sur les roses et gueula qu'on n'avait pas de preuves. On n'en avait pas, en effet. Mais Faro et sa clique, sans oublier le petit, qui prenait cela à cœur, dégotèrent un fameux témoin dans l'après-midi, à force de fouiner dans les relations de Salvetti. La maîtresse de Godard, une pin-up genre Lola Garrigue, en moins raffinée. Les truands la séquestraient plus ou moins pour qu'elle ne l'ouvre pas. Amenée à la boîte, elle l'ouvrit. Elle avait assisté au meurtre. Il fallait bien que quelqu'un détourne l'attention du bonhomme pendant qu'on lui passait la corde au cou. Après ce témoignage, Godard ne s'obstina pas à nier, du tout.
Ça ne fait rien, Nestor Burma. Je me demande ce qui a pu vous mettre sur la piste. Je croyais mon boulot nickel. J'avais donc oublié quelque chose?
La théorie de Nestor Burma tenait à un fil. Eh bien, vous assombrissez pas de la moustache, le petit. Un fil, je dis.
Pardon. Un lacet. Oui, mon vieux Godard. La prochaine fois que vous remettrez les godasses à un maniaque, surtout un maniaque, ben vous veillerez à les lacer conformément à ses habitudes. Sans cela, ça risque de faire travailler l'imagination d'un détective de choc, s'il s'en promène un dans les parages.
Merde.
Ah ben ça lui porta pas bonheur.
C'était « Entreprise de transport » de Léo Mallet. Aujourd'hui, seconde partie, avec les voix de Henri Lambert, Philippe Nicot et Rémi Kirsch. Réalisation Jacques Béraud.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Lately I'm not feeling like myself.